Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Centre Pompidou, où la BPI vous accueille donc pour cette deuxième journée de rencontre autour de Claude Simon, en programmation parallèle de l'exposition Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde, qui est donc en place dans les murs de la BPI jusqu'au début du mois de janvier 2014. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là hier, donc, nous renouvelons nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires sur cette opération, l'association des lecteurs de Claude Simon et le professeur Dominique Viard, donc, qui a été notre directeur scientifique à la fois sur l'exposition et sur l'organisation de cette journée. L'après-midi va être découpé en trois tables rondes. La première est consacrée et s'intitule « L'art de la phrase, une révolution dans l'écriture ». La seconde, à partir de 15h30, traitera du sujet Claude Simon, un écrivain dans le monde. Et enfin, à partir de 17h, autour de quatre écrivains contemporains, nous vous proposerons une table ronde intitulée « Un écrivain dans la littérature contemporaine ». Je laisse tout de suite la parole à David Zemmour, qui se charge d'animer la première table ronde.
Merci Jérôme. Est-ce que vous m'entendez convenablement ? Oui. Alors, je me permettrai pour commencer de faire un peu de publicité pour l'association des lecteurs de Claude Simon, dont je suis secrétaire général. Je reconnais un certain nombre d'adhérents dans la salle, mais tous ne le sont pas encore. Donc cela, sachez que vous pouvez trouver à l'entrée ou à la sortie, c'est selon des bulletins d'adhésion remarquablement photocopiés, que vous pourrez nous adresser pour rester, j'allais dire, lié à toute la réflexion sur l'œuvre de Claude Simon. Voilà. Alors, vous me trouvez en ce moment même bien intimidé au moment d'accueillir trois figures importantes de l'écriture, de la création contemporaine, et pas seulement de la création, mais en même temps de la réflexion véritablement sur le geste littéraire. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Yves Boudier, à ma droite, Michel Deguy et Bernard Pingot, trois personnes qui ont un certain nombre de caractéristiques en commun. La première est d'avoir fondé la Maison des écrivains et de la littérature. Donc, vous voyez, une activité permanente au service de la création sous tous ses aspects. Vous avez évidemment en commun aussi de pratiquer, de fréquenter la littérature de diverses façons, éventuellement en l'enseignant et donc en écrivant de la poésie ou des romans. Et bien sûr aussi, vous êtes des familiers admiratifs de l'œuvre de Claude Simon. Je ne peux que souligner au passage, concernant Bernard Pingot et Michel Deguy, le fait que je crois que vous êtes parmi les tout premiers à avoir parlé, à avoir consacré des articles à cet auteur et à d'autres du nouveau roman dès la fin des années 50, dès le début des années 60, à un moment où cela n'allait pas de soi. Peu étaient ceux alors qui avaient su percevoir l'originalité et la singularité de cette écriture. Voilà, donc je tenais à le souligner. Puisque cette table ronde est intitulée « L'art de la phrase, une révolution en écriture », je propose donc de partir de ces deux formules pour les introduire avant de céder la place, et la parole plutôt, pas encore la place, aux intervenants. C'est une formule, « L'art de la phrase, une révolution en écriture » qui me paraît particulièrement bien choisie. Nous la devons à Dominique Viard, qui en a élaboré le libellé. Cette formule, un art de la phrase, effectivement, il y a un art de la phrase chez Simon, mais comment le caractériser ? On pourrait s'appuyer sur quelques faits ordinairement constatés. La phrase de Claude Simon est longue, elle est méandreuse, elle se perd en ramifications, etc. On connaît toutes les métaphores qui servent à la décrire, hein, la métaphore fluviale, la métaphore ambulatoire, la métaphore de l'arborescence, enfin j'en passe. Mais quand on y réfléchit, c'est simpliste, voire inexact. Simpliste parce que à ce stade, on n'entre pas dans les détails, et inexact en fait parce que quand on y réfléchit bien ou quand on regarde le texte, ce ne sont pas nécessairement des énoncés ou des unités si longues que cela auxquelles on a affaire. Si on prend simplement les tout premiers mots de la route des Flandres, il tenait une lettre à la main, il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre, etc., on s'aperçoit que ce sont des unités relativement brèves qui s'enchaînent et qui pourraient être éventuellement considérées comme des phrases si on se place sur le plan du rythme ou même du sens. Donc les phrases de Simon ne sont longues finalement que si on les considère sur le plan strictement graphique avec quelque chose qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Mais si on se place alors sur ce terrain-là, finalement il n'y a même pas de phrase chez Claude Simon. Donc plutôt un rythme en fait qui fait penser à une scansion et qui se fonde sur des unités qui ne sont pas si longues que ça. Alors là où il y a longueur, en fait il y a peut-être durée et expérience de la durée, me semble-t-il, avec cette juxtaposition d'unités plus ou moins longues, mais souvent brèves, qui sont placées les unes à côté des autres. Et donc c'est la parole, me semble-t-il, plutôt que la phrase qui s'étend chez Simon et qui du coup met cette parole en représentation, c'est-à-dire exhibition d'une parole qui ne veut pas finir ou qui ne veut pas s'épuiser. Alors selon quelle modalité ? C'est là que le terme d'art fait sens en ce qui nous concerne, puisque nous avons donc cette formule « art de la phrase ». Dans de nombreux entretiens que Simon a accordés, il revendique l'image d'un bricoleur de ses romans. Pour lui, le texte est une sorte de matière première qu'il s'agit de travailler, de bricoler. C'est vrai, je crois, au niveau des fragments qu'il rédige avant de les assembler, mais je crois que c'est également vrai sur le plan de la langue. Il me semble donc qu'il sera intéressant d'essayer de voir exactement comment Simon travaille, malaxe la syntaxe pour aboutir au résultat que nous connaissons. Et puis, il y a cette formule donc de révolution en écriture, dont je veux dire un mot. Par révolution, on pourrait entendre bouleversement, voire un renversement des pratiques courantes ou dominantes, y compris par rapport aux écrivains du nouveau roman. Certes, d'un côté, c'est vrai, la première fois qu'on aborde l'œuvre de Claude Simon, et je crois que cela fait partie des premières fois dans la vie dont on se souvient. Donc la première fois qu'on découvre l'œuvre de Claude Simon, on est immédiatement frappé par une singularité, par quelque chose qu'on n'a jamais lu auparavant. Et pourtant, en même temps, on peut convenir que c'est une écriture qui ne vient pas de nulle part. Si Claude Simon est un fervent admirateur de Dostoïevski, il me semble que son écriture doit davantage à des auteurs qu'il admire beaucoup par ailleurs, comme Proust, Faulkner, Joyce encore, même si ses admirations ne sont pas forcément inconditionnelles. Dans le discours de Stockholm, Simon reconnaît l'importance de ces trois écrivains dans la conception de l'écriture romanesque. Vous me permettrez de citer quelques lignes. Si je ne peux accorder quelque crédit à ce Deus ex machina qui fait trop opportunément se rencontrer ou se manquer les personnages d'un récit, en revanche, il m'apparaît tout à fait crédible parce que, dans l'ordre sensible des choses, Simon souligne la formule, que Proust soit soudain transporté dans la cour de l'hôtel des Guermantes sur le parvis de Saint-Marc à Venise par la sensation de deux pavés sous son pied, crédible aussi que Molly Bloom soit entraînée dans des rêveries érotiques par l'évocation des fruits juteux qu'elle se propose d'acheter le lendemain au marché, crédible encore que le malheureux Benji de Faulkner hurle de souffrance lorsqu'il entend les joueurs de golf crier le mot caddie, et tout cela parce qu'entre ces choses, ces réminiscences, ces sensations, existe une évidente communauté de qualité, autrement dit une certaine harmonie, qui dans ces exemples est le fait d'association, d'assonance, mais peut aussi résulter comme en peinture ou en musique de contraste, d'opposition ou de dissonance. Alors dans cet extrait, Simon accorde donc davantage de crédit et de vraisemblance à ce qui, par exemple, chez Proust, correspond à la mémoire involontaire, davantage de crédit qu'à l'arbitraire du récit. C'est cette réalité de la conscience, des données immédiates de la conscience, pourrait-on dire après Bergson, que Simon vise à écrire, et de ce point de vue, on sait que son œuvre va prolonger les réflexions ou les pratiques de ses trois devanciers. Donc, un des enjeux de cette table ronde, je crois, sera d'essayer de voir dans quelle mesure cette écriture est révolutionnaire ou bien s'inscrit dans la perpétuation ou dans la continuité, l'approfondissement de pratiques antérieures. Mais peut-être qu'avant l'art de la phrase, avant une révolution en écriture, on peut essayer de s'interroger tout simplement sur le ressenti de chacun, hein, cette approche cette appréhension personnelle de l'écriture de Claude Simon. Et donc, je vais laisser la parole aux trois intervenants pour une intervention assez libre et spontanée sur ce que chacun d'eux souhaite exprimer, finalement, de ce rapport à l'œuvre. J'ai envie, si vous le voulez bien, de passer d'abord la parole à Yves Boudier en citant quelques lignes que Patrick Longuet, que vous avez pu entendre hier, a écrit au sujet de ce rapport presque physique, organique à Claude Simon. Je me permets de le citer. Lire les textes de Claude Simon, dit-il, est un plaisir. Cela satisfait physiquement par une manière d'impliquer le corps dans une errance grave, avant tout pulmonaire. La phrase commence par asphyxier. Le texte prend le souffle qu'ensuite on lui abandonne, peu à peu acquis à une cadence interne. Puis, revenant des poumons, la sensation d'un plein emploi de soi atteste que la lecture a commencé. Voilà, je crois que dans le même mouvement, la table ronde a commencé.
Merci. Je suis d'autant plus heureux de prendre la parole tout d'abord que, ne connaissant pas ce que David allait dire, je m'y suis retrouvé complètement et les passages qu'il a cités du discours de Stockholm, je crois, sur Dostoïevski, Joyce et d'autres auteurs sont tout à fait importants et me mettent moi-même dans une situation plus facile pour vous dire ce que j'ai non pas librement décidé de vous dire, mais que j'ai rédigé parce que je ne vous cacherai pas que... Oui, excuse-moi Michel. Je ne vous cacherai pas que je suis assez intimidé à cette table, à côté de Bernard Pingot et de Michel Deguy, qui ont, eux, une fréquentation de Claude Simon, et fréquentation aussi bien, qui ont une fréquentation physique, ce qui ne fut pas mon cas, une fréquentation beaucoup plus soutenue que la mienne de Claude Simon. Moi, je vous parle de Claude Simon, de l'écriture de Claude Simon, et avec un point de vue qui va vous sembler peut-être un peu saugrenu, mais en tant que poète, hein, c'est véritablement parce que je m'intéresse au poème, à la poésie, j'en parle, mais je ne sais pas trop ce que c'est, mais le poème, oui, je pense que je sais un peu ce que c'est, et je m'intéresse donc au poème. Et lorsque je lis Simon, et c'est depuis le début de ma lecture de Simon, ça ne s'est pas démenti, j'ai plutôt le sentiment, je vais le dire vite, mais je vais m'expliquer, de lire un poète plutôt qu'un romancier. Donc j'ai assuré mes quelques idées sur quelques pages dont je vais vous donner lecture, de la manière la plus vivante possible, je le souhaite. Donc pour aborder cette question dont David Zemmour nous rappelait l'intitulé « L'art de la phrase, une révolution à l'écriture », je choisis pour ma part d'entendre le mot « révolution » au sens de son étymologie latine, qui désigne un parcours caractérisé par le retour d'un objet à un point particulier de son cycle. En l'occurrence, le cycle est celui de ma lecture de Claude Simon, l'objet en mouvement, le poème qui surgit au rythme des lignes parcourues, poème invisible au seuil de ma saisie du texte, mais présent lorsque je referme le livre. Alors, pour que mon propos vous soit compréhensible, il me faut d'emblée m'expliquer sur la manière dont je lis le poème, dont je lis précisément le poème. Peut-être est-ce un mode de lecture qui m'est singulier, mais quand je lis un poème, le sens qui en sourd se nourrit de la présence proprement invisible de la prose de laquelle j'imagine qu'il est issu, de sa périphérie langagière. Si j'emprunte une image à la sculpture, qui souvent taille dans le bloc informe, c'est comme si, en observant l'œuvre, je reconstruisais la matière dont elle provient. C'est ainsi que je redonne forme par la lecture aux éléments de langue qui irradient autour du poème, aux signifiants, aux motifs rhétoriques dont je postule, dont j'imagine qu'il est né. Les linguistes appellent cet espace singulier le contexte implicite du texte. Donc je replonge en quelque sorte le poème dans le bain de langue dont il est sorti, plus précisément dont il s'est exclu, dont il est né. Je reforme le puzzle de prose dont il est en fait une sorte d'image absente. Alors pourquoi est-ce que j'évoque cette modalité personnelle de lecture alors que nous avons affaire avec Claude Simon, que j'ai affaire avec lui, à un auteur de roman, à chaque fois nommé comme tel, à un auteur qui n'est pas connu comme écrivain de poésie et qui ne s'est jamais, je crois, présenté comme revendiquant l'écriture de poèmes, en prose ou simplement de poèmes, à l'exception peut-être de La chevelure de Bérénice, mais j'y reviendrai plus loin. Cela tient au fait que ma lecture du poème entretient une parenté paradoxale avec ma lecture de l'écriture de Claude Simon. Alors voici comment. son écriture fonctionne pour moi à l'inverse même de ce que je viens d'énoncer de ma lecture du poème. Aucun processus de reconstitution d'éléments absents ou implicites, mais lorsque je lis les phrases singulièrement déployées qui obéissent à une grammaire intime, inimitable, se dégage peu à peu du texte cursif de Claude Simon le poème qu'à mes yeux, et sûrement à mes oreilles, il contient, le poème qu'il recèle. Du champ d'écriture, du champ de bataille textuelle que j'ai sous les yeux et dont je m'empare, monte un réseau de sensations, d'émotions, d'effets de sens qui écrivent dans le dédoublement, le dépliement d'une langue comme absente, le poème de la prose, le poème dans la prose, par la prose. Non pas poème en prose, c'est là son invention. Son usage des parenthèses, par exemple, à l'intérieur même d'une découpe paragraphique singulière, joue à mes yeux le rôle d'une prosodie, d'une mesure interne au texte qui exerce un quasi-effet strophique. Ce que plus récemment Roubaud, par exemple, dans son ode aux autobus parisiens de la ligne 29, a tenté de rendre visible en recourant à différentes couleurs d'écriture des vers. Ce qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec l'usage du codage par la couleur des séquences des montages des romans de Claude Simon. Si je vais jusqu'au bout de mon hypothèse, j'oserais dire que Claude Simon écrit poétiquement, mais dans un dépassement de l'opposition aristotélicienne entre poésis et praxis. Ni dissolution du travail dans l'objet écrit, ni fascination d'une quelconque postérité du geste dans un au-delà du texte. Lire Simon, c'est pour moi rester rivé à la lettre, à la langue qui s'écrit, qui travaille, à son labeur, le mot lui importait beaucoup, rester l'œil fixé sur la page qui accueille le montage du texte et instruit ses ruptures, ses surprises. C'est entendre dans les palpitations, je pense à Dominique Viard qui a souligné l'importance de ce mot chez Simon, dans les palpitations du texte en commune fusion, la voix presque imperceptible mais insistante d'un poème qui s'empare du lecteur que je suis et lui parle dans son silence, comme sur le mode mallarméen du fameux « Je dis une fleur ». Musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet, pour ne citer qu'un fragment de cette phrase si célèbre, ou encore pour emprunter une autre image mallarméenne, celle qui clôt le premier quatrain du sonnet sans titre, le cygne, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup des livres ce lac dur oublié que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Puisque j'évoque Mallarmé, allons un peu plus près encore de la relation de Claude Simon, de la relation qu'il entretenait avec lui. Lorsque « Femme » de 66 est réédité en 83 sous le titre « La chevelure de Bérénice », il dit à Claire Poland dans un entretien des Nouvelles littéraires que ce texte était pour lui, je le cite, tout à fait à part, dans mon esprit, c'est plutôt un poème. Thème qu'il reprend 3 ans plus tard dans le discours de Stockholm en citant deux mémoires, les derniers mots d'un extrait du texte de Mallarmé sur l'évolution poétique, ce texte de 1891 que je vous rappelle, il est tellement important. Dans le genre appelé prose, c'est Mallarmé qui parle, il y a des vers, quelquefois admirables, de tout rythme. Mais en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a l'alphabet et puis des vers, plus ou moins serrés, plus ou moins diffus. Toutes les fois qu'il y a effort au style, il y a versification. Simon dit « chaque fois où il y a effort au style », enfin peu importe. Cette idée, lui, est, je crois, soufflée par ce qu'il repère d'une évolution de la peinture et de la fonction du peintre, dont il dit, toujours dans ce fameux discours de Stockholm, qu'elle, citation, s'est en quelque sorte inversée pour ne plus exprimer du sens, mais en produire. Et il ajoute, en faisant le lien avec la littérature, « il semble aujourd'hui légitime de revendiquer pour le roman, ou d'exiger de lui, une crédibilité plus fiable que celle, toujours discutable, que l'on peut attribuer à une fiction, une crédibilité qui soit conférée au texte par la pertinence des rapports entre ces éléments, dont l'ordonnance, la succession et l'agencement ne relèveront plus d'une causalité extérieure aux faits littéraires, mais d'une causalité intérieure, en ce sens que tel événement décrit et non rapporté suivra ou précédera tel autre en raison de leur seule qualité propre. » Et il conclut sur ce point quelques pages plus loin, « c'est que l'on écrit ou ne décrit jamais quelque chose qui s'est passé avant le travail d'écriture, mais bien ce qui se produit, et cela dans tous les sens du terme, au cours de ce travail, au présent de celui-ci, et résulte non pas du conflit entre le très vague projet initial et la langue, mais au contraire d'une symbiose entre les deux, qui fait que, du moins chez moi, le résultat est infiniment plus riche que l'intention. Je lis pour ma part ces lignes comme un véritable art poétique, et je les fais profondément miennes pour ce qu'elles m'apprennent sur le geste qui préside à l'écriture du poème. Je suis très sensible à ce débordement du texte sur l'intention, qui est quasiment une définition du poème. En effet, s'il y a poème, c'est qu'une forme a gagné une autonomie propre à produire un sens qui touche au-delà même de ce que l'on présume ou suppose de l'intention de l'auteur, ou pour jouer sur le mot, de sa tension vers l'image ou l'idée, de sa causalité intérieure, pour reprendre les termes mêmes de Claude Simon, qui n'a certes pas inventé le roman poétique, je dirais là une véritable bêtise, mais une poétique du roman qui déplace et redispose les habituelles frontières entre prose et poème. Autrement dit, la phrase de Claude Simon me donne à entendre quelque chose qui m'est personnel, intime. Elle entre en écho avec une phrase intérieure, silencieuse, qui court comme parallèlement à la sienne. Elle la suscite, la déploie, elle s'y superpose et se révèle ainsi elle-même dans son sens profond. C'est pour moi une forme de compréhension au sens propre singulière. Non pas une identification de ma part à quelque élément du récit, personnage, situation, image, ambiance. Non, cela ne relève pas de l'habituel processus induit par le roman romanesque. Si je prends le risque d'une dernière comparaison, ma perception de la phrase simonienne ressemble davantage à ce qui se produisait en moi dans l'enfance quand je lisais certains passages de la mythologie gréco-romaine, les épisodes historico-guerriers de l'Iliade ou de l'Énéide par exemple, à travers lesquels je ramenais à mon expérience naissante du monde des images dont je n'avais pourtant pas alors les référents culturels. Sur ce plan des références, c'est quasiment le contraire aujourd'hui dans ma lecture de Simon. J'identifie chez lui la plupart des référents, mais dans la nature même du mouvement de lecture, dans la manière dont son écriture, dont la saisie induite du texte construit le sens, je ressens un sentiment identique de captation, parfois fasciné du lecteur que je suis, par une prose qui me conduit au poème. Mon expérience de Simon est sûrement ce qui me fait éprouver au plus haut point ce mystère concret de la lecture. Se lire en l'autre, ressentir un sens qui s'abstrait du texte même, tout en le manifestant au plus haut point, car produit d'une écriture, d'un travail laborieux, je lui reprends ce mot, sur la langue qui ainsi gagne une puissance émancipatrice, une liberté, celle de montrer les causes gagnées ou perdues des guerres et de l'amour. Roland Barthes dans S.Z., j'ai jamais su comment prononcer le titre de ce livre, d'ailleurs, S-Z, je ne sais plus, Sarrazine, quoi, écrit que l'auteur est un rêve de lecteur. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à partager sa conviction que la mort de l'auteur est un moyen de rendre sa place au lecteur. Non, mais je souscris pleinement à sa pensée lorsqu'il avance plus loin que le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture. Il est vrai que la phrase simonienne invente chez moi une modalité de lecture où l'auteur au sens classique disparaît au profit de la révélation du travail de l'écriture, du travail de la langue, qui reste cependant celui d'un écrivain singulier, incarné dans cette langue, en vibration. Et là, je reprendrai volontiers les mots de Barthes en les adressant cette fois à l'écrivain et pas au lecteur, à l'écrivain en vibration, avec toutes les citations dont est faite une écriture, celle de la langue, de sa langue. Cette présence particulière de l'écrivain dans le travail langagier entre en écho avec ce travail parallèle qui est celui de ma lecture, intimement lié au mouvement de la langue, au mouvement qui gouverne la jeunesse du récit. C'est dans mon acte de délinéarisation du texte, lu, implacablement construit, d'où monte le sens, le poème, que je ressens cet effet si marquant de l'écriture de Claude Simon. Un acte de lecture qui jouit de ce paradoxe de la littérature forcé, comme il le dit lui-même, forcé par la configuration linéaire de la langue, d'énumérer les unes après les autres les composantes d'un paysage intérieur dynamique touchant par là même aussitôt à ce prodigieux ensemble, ce prodigieux réseau de rapports établis dans et par la langue, qui, comme on l'a dit, parle déjà avant nous, au moyen de ce que l'on appelle ces figures, ces tropes, dont aucune n'est l'effet du hasard, mais tout au contraire, partie constitutive de la connaissance du monde et des choses peu à peu acquises par l'homme. Peut-être est-ce parce que Claude Simon me donne à voir cette langue en acte, en action, sa rhétorique intime, dans ce processus d'actualisation de l'inépuisable chaos du monde, magnifique formule, à voir comment la présence du texte se fabrique, ce qui relève d'une pratique propre à l'écriture du poème, qu'il m'impose une telle qualité de lecture et, partant, ma qualité de lecteur. Claude Simon m'offre une écriture sans arrière-pensée, tout entière tendue dans sa présence verbale, les mots non seulement signes, mais carrefour de sens, comme il le dit dans la préface d'Orion, une écriture où l'écrivain s'engage à ses risques et périls, une syntaxe du sensible, pour reprendre cette formule magnifique de David Zemmour, une syntaxe du sensible qui me conduit au poème. Je conclurai ces remarques avec Heiner Müller, qui dans un entretien en 89 déclarait « Lorsque la surface est le contenu, c'est peut-être ça la poésie. » J'ose m'emparer de cette hypothèse du dramaturge pour l'associer à l'émotion que me procure l'art de la phrase de Claude Simon. Où sommes-nous en effet lorsque nous lisons ces lignes? Et je conclurai par quelques extraits de La chevelure de Bérénice et du tramway. Où sommes-nous? Prose ou poème? Sous le ciel gris, là-bas, elle n'était plus maintenant que trois points minuscules, géranium, vert, pomme et noir. Des jardins arrosés parvenaient l'odeur de la terre mouillée. Certaines sentent la mer, les coquillages, d'autres comme si on enfouissait son visage dans la mousse, trouvant au-dessous cet âcre et noir parfum d'humus, de près des sardines, des barques, têtes sans tête pourrie ou desséchée, raidie en arc de cercle, couverte de sable gris, collée la tête d'un gros poisson avec ses rangées de dents aiguës, l'œil vitreux, rond, noir, cerclé d'orange. Brise molle du crépuscule froissant encore les feuilles par moments. Les oliviers gris, la montagne mauve, le ciel safran. Sans cesser de marcher, elle rattacha son peigne. Noir dans le crépuscule, un moment, ses deux bras levés, je pus voir les touffes sombres de ses aisselles, ses bras levés comme deux cornes un instant, le peigne aux dents noires se détachant, sur le ciel disparaissant. Passant deux ou trois fois dans sa chevelure, puis elle le planta dedans et rabaissa les bras, léchant leurs lèvres desséchées de leur langue poilue, langue passant et repassant sur les lèvres crevassées, et ce dard, encre et coquelicot, celle en noir disparue, les deux corsages, géranium et vert, même plus visibles maintenant. Comme si quelque chose de plus que l'été n'en finissait pas, d'agoniser dans l'étouffante immobilité de l'air où semblait toujours flotter ce voile en suspension qu'aucun souffle d'air ne chassait, s'affalant lentement, recouvrant d'un uniforme linceul les lauriers touffus, les gazons brûlés par le soleil, les iris fanés et le bassin d'eau croupi sous une impalpable couche de cendre, l'impalpable et protecteur brouillard de la mémoire.
Merci beaucoup Yves de cette lecture sensible qui nous montre que effectivement Claude Simon se lit aussi et de manière très très belle et touchante à voix douce. Vous nous avez parlé de sa poétique assez concrète qui relève du bricolage. Nous avons maintenant l'occasion d'entendre Michel Deguy nous parler peut-être aussi de son rapport à la réception et en même temps peut-être aussi à la poétique de Claude Simon.
Merci. Alors, j'ai des notes là, mais je ne vais pas les lire. Je vais essayer d'enchaîner un peu sur ce qui a été dit, qui commence à être dit. Et à un moment, très vite, je vais aller du côté de ce que vient de dire Yves Boudier, c'est-à-dire la question que j'appelle ici du prosimètre, si vous voulez, pour placer ce mot-là. Alors, la phrase, oui, au fond, en disant les choses un peu grossièrement, un peu massivement, pas grossièrement, mais massivement, on peut dire que l'écriture de Claude Simon se place pour nous, avec l'éloignement dans lequel il commence aussi à, non pas à disparaître, bien entendu, mais à se retirer d'une certaine façon, entre quoi et quoi ? En parlant un peu massivement, disons, entre ces deux pôles ou ces deux temps, de la grande phrase française classique, la phrase de Vaugelas, la phrase de Descartes, la phrase, et il est important de rappeler celle-ci, bien entendu, parce que quand Claude Simon, auteur français, se rend à Stockholm, il fait un discours. Le discours est en phrase, la phrase, on va le dire, la phrase de Vaugelas, si vous voulez. C'est-à-dire quoi ? Une phrase ponctuée, en disposition prosaïque, vous voyez, oui, de prose, c'est-à-dire par une justification d'une marge à l'autre, en allant de cette marge à l'autre, en remplissant avec des normes typographiques, des normes de prot qui sont respectées. Et il faut évidemment, sur ce fond-là, toujours ouvrir ses livres qui ne sont pas là. Donc voilà, c'est le discours de Stockholm, c'est la discursivité. Et puis alors à l'autre bout, c'est-à-dire notre temps, on pourrait dire, comme Roland Barthes, après tout, ce fut la dernière inquiétude, où est la phrase, que devient la phrase, et qu'est-ce qui se passe avec le déphrasage, peut-être le déphasage, ce qui est en cours maintenant. Oui, la référence à Barthes, c'est assez étonnant chez Claude Simon, parce qu'au fond, c'était peut-être celui qui l'aimait le plus de ses contemporains, et dans le discours de Stockholm, en tout cas, révéré le plus, dans le discours de Stockholm, il fait mention de peu de monde, mais tout à coup, il fait mention de Shakespeare et Barthes. C'était une phrase assez étonnante, parce qu'il y a une espèce de, j'ose pas dire de CV, alors on va dire de vie brève, il fait, en se présentant à Stockholm, il écrit sa vie brève. C'est un très beau texte, c'est très émouvant. À peine une page qui consiste à dire rien n'a de sens. Il y a, ça se termine, je crois, par ce qui est, rien n'a de sens, sauf qu'il est. Et deux auteurs, bien entendu, il y a d'innombrables auteurs qui ont dit ça, mais il y a deux auteurs, c'est Shakespeare et Roland Barthes. Et la dernière inquiétude de Barthes, ne l'oublions pas, c'est l'inquiétude de la phrase. Que devient la phrase ? Peut-être il faut recommencer la phrase. Et la phrase dont nous parlons, la phrase avec guillemets, on va mettre de Claude Simon, je la mets entre ces deux-là. Alors, on commence à entrer dans la différence prose-poésie. La prose se présente, comme je dis, un instant, au fond, en ceci que la phrase de prose, elle est longiligne, elle est linéaire. Et justement, Claude Simon va insister là-dessus, entre, d'une part, disons, le chaos, on va dire pour le moment, provisoirement, le chaos mental, et d'autre part, la linéarité ou successivité de la phrase. Et il faut faire tenir ça l'un dans l'autre. Cette phrase, certains livres de Claude Simon, si on écrivait la phrase, supposons que ça en soit une, dans sa continuité sur une bande de papier, le livre serait donc un rouleau de 2,5 km, je ne sais pas. Et puis, là, la disposition en vers, pendant des siècles, du poème, c'est-à-dire une justification spéciale, une régularité d'irrégularité, des itérations, la question finalement de l'enjambement et de la césure, la question qui devient aujourd'hui de l'alinéa, le passage à la ligne. Parce que finalement, on peut dire que la question d'aujourd'hui, pour ce qui est de la disposition en poème d'aujourd'hui, d'auteurs qui arrivent en disant « j'ai écrit un poème », la preuve, c'est qu'il a écrit ici « poème », c'est la seule façon qu'on a de distinguer un poème d'autre chose, c'est qu'il a écrit ici « poème ». Et la question est, que le lecteur peut se poser, c'est « pourquoi va-t-il à la ligne ?» D'un coup, une certaine séquence s'arrête, il y a soit un intervalle blanchi, le blanc assumant l'importance, ce blanc étant lui-même, comment c'est, enfin, aléatoire, c'est-à-dire c'est pas un blanc de prot en quadratin mesuré, c'est un blanc qui peut être, blanc peut être 2 cm, 30 cm, 35 pages, pourquoi pas, le blanc, tu vois. Et la linéa, au fond, un auteur à poème, c'est quelqu'un qui devrait être capable, ou disons responsable, c'est-à-dire de répondre à une question du type « Pourquoi là vas-tu à la ligne ?» Ça s'arrête et ça saute. Alors, entre ces deux, peut-être extrêmes, disons, je tâtonne un peu, ben, on peut se demander en quoi consiste, où va, où et qu'est-ce que fait exactement Claude Simon. J'ai remarqué, je vais un peu en vrac, j'ai relu des choses ces jours-ci, et j'ai écrit un petit texte, ça j'enverrai Dominique plus tard, c'est pas pour le, je vais pas le lire maintenant, auquel j'ai donné un titre drôlatique, dont je ne pourrais guère m'expliquer. J'ai appelé ça l'ekphrasis et le péplum. Je vais venir à ekphrasis dans un instant. Parce qu'au fond, tiens, si je m'arrête à ekphrasis tout de suite, au fond, le ou un des grands procédés de Claude Simon, c'est l'ekphrasis. Alors on voit qu'il est toujours dans la phrase parce qu'il a affaire à l'ekphrasis. Hein. Alors le rapport, l'ekphrasis. Peut-être, là, je vais aussi un peu gros, il faudrait vérifier tout ça sous bénéfice d'un fondeur, bénéfice d'inventaire. Tantôt, il intercale une picturalité, un tableau, le moment de rappeler que l'amour de la peinture chez Claude Simon, sa connaissance d'un historien de l'art, et où le photogramme, la photographie, c'est-à-dire l'époque, par où elle se glisse maintenant, l'écran d'aujourd'hui, hein, le film, la télévision, l'image, ce qui est devenu l'image. Alors bien entendu, une des grandes difficultés pour nous aujourd'hui dans toutes ces affaires, y compris avec Claude Simon, c'est qu'il y a l'homonymie de l'image. Bien entendu, avec l'image, on croit que ben oui, c'est l'image, ça pourrait être du Raphaël Delacroix, ou je ne sais pas, peu importe, et puis il y a l'image d'aujourd'hui. Non, mais l'image aujourd'hui a complètement... est sous l'homonymie est complètement autre, et c'est une des grandes difficultés d'aujourd'hui qui fait que d'ailleurs peut-être avec l'interposition extraordinaire de la photographie pris dans le sens le plus général, le plus moderne, le fait qu'au fond à tout instant tout humain, c'est peut-être la définition de l'humain, est en train de photographier, c'est-à-dire se confie un appareil lui-même hyper perfectionné, le soin négligent de capter, de prendre. C'est-à-dire, j'improvise, si vous voulez, faire. Au fond, on voit le travail de l'ekphrasis de l'écrivain à son appareil. C'est ce qui fait que Claude Simon est peut-être lui-même là en train de... C'est un homme du XXe siècle, c'est un homme de la moitié du XXe siècle. Les images de son imagination nous renvoient à la guerre. Quelle guerre ? C'est ça que dans mon titre, petit article que j'ai créé, j'appelle le péplum, parce que c'est à cause du film. C'est les guerres qu'il a faites, finalement, sur le fond de la Première Guerre mondiale. C'est la drôle de guerre, la guerre de 40, ces actes héroïques qui racontent la guerre d'Espagne, tout le temps. C'est son expérience. Alors, encore un petit mot sur ekphrasis. Il y a d'une part le chaos mental, comme on l'appelle, le vécu, comme il dit aussi souvent, ou le senti, comme on dit maintenant, le magma des associations d'idées, des souvenirs qui passent, c'est-à-dire cette instantanéité invraisemblable qu'il appelle quelque part, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de retrouver ça, l'intérieur, et puis... Là, de l'autre côté, c'est pour nous, il y a voilà, la phrase qui elle-même est dans la successivité. Et comment, quel est le procédé, comment passer de l'un à l'autre, on peut appeler ça l'ekphrasis. C'est-à-dire, c'est tout à coup comme, grand mot de Claude Simon, comme si, et on est de l'autre côté du comme si dans une description qui peut être une description du poussin, qui peut être d'un tableau, on va dire au fond un tableau, voilà, un tableau. Ce tableau est fourni soit par une œuvre d'art effective, c'est-à-dire qu'il a dans les yeux, soit par une quasi œuvre d'art, c'est-à-dire ce qu'il décrit dans l'ekphrasis, non pas décrire, on va dire ce qu'il raconte dans l'ekphrasis, c'est le tableau, aussi bien inventé, ou qui peut être celui d'une carte postale que nous n'avons pas sous les yeux. Alors il y a une chose très importante que j'ai relevée, il faut le signaler, dans les deux articles qui viennent de sortir sur Claude Simon. Hein, si j'avais le temps, je ne le prendrais pas, heureusement, je ferai attention à ces deux articles, parce que dans le dernier numéro, le plus récent, donc 174 de la revue Poétique, il y a deux articles au sujet de Claude Simon. C'est pas son anniversaire, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a une ambiance critique de la lecture de Claude Simon. Ça aussi, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on parle de Claude Simon ? Vous avez évoqué fort aimablement le temps extrêmement lointain où dans la revue Critique, je ne sais même plus quand, j'avais fait un papier sur la route des Flandres, les temps anciens de la critique, sur la route des Flandres, effectivement. Et il y a comme une espèce dans ces deux articles qui ont bien entendu le nom de leurs auteurs sur la couverture, mais qui sont signés du nom des universités. S'il y a un article de Louvain et un article de Lausanne, bon, ils ont leur nom, hein, puisque j'en parle, M. Jean Bétas et M. Golu et Mme Zufferé. Bon. Alors, je vais simplement prélever deux choses dans ce qu'on peut appeler donc l'ambiance critique de la lecture universitaire actuelle qui se tourne vers Claude Simon. Deux choses, je crois, assez frappantes qui ont rapport dans mes méandres à ce qu'on est en train d'agiter, c'est la phrase, c'est ceci, pardon, oui, il faut quand même, je crois qu'il faut quand même souligner, s'agissant du roman, c'était pas autrefois, on n'écrivait pas s'agissant, c'était du langage administratif, c'était pas dans les conjonctions de subordination. S'agissant du roman de Claude Simon, qui a pris soin de ne reproduire aucune photographie à l'intérieur de son texte. Qui a pris soin de ne reproduire aucune photographie à l'intérieur de son texte. La carte, justement, elle n'y est pas. C'est pour ça qu'il y a de la prose. Mais il faut quand même insister, parce que c'est justement un des signes, je vais peut-être parler aujourd'hui, c'est que de cette manière de faire, on s'éloigne de plus en plus, non seulement par la fascination pour Zébald ou la fascination d'une chose, et puis le nouvel état de l'image, de la photographie, mais c'est que on met la photographie, l'illustration, comment appeler ça, mais un certain type de photographie, dans le livre. Le livre ou texte de Claude Simon ne reproduit aucune photographie. Alors, on peut peut-être dire qu'à la place, il y a l'ekphrasis. Mais justement, et cet ekphrasis peut être d'un poussin que effectivement le lecteur reconnaît, mettons, ou bien d'une œuvre en tableau inventé, ou bien d'une carte postale, c'est-à-dire finalement d'une photographie, c'est-à-dire ou d'un film, etc. Et là, se jouent des choses. Etc. Je remarque plus loin que l'article dit. Le monde, c'est donc toujours Jean Bétas, le monde s'avère d'une complexité telle, qu'il n'est plus possible de le rendre à l'aide d'un instrument, le langage, dont les lois et la structure sont tout autres. Évidemment, cette phrase n'est pas du tout une phrase simonienne, elle est même une phrase anti-simonienne. Parce que D'abord, je remarque le vocabulaire classique est toujours le vocabulaire de la mimésis, qui est si important. Rendre. Ah, il a bien rendu. Alors, c'était le dessin qui était supposé rendre. Ou bien sa photographie, c'est bien rendu. Il est toujours là, le rendre. Autrement dit, nous sommes toujours, quelles que soient les modifications théoriques puissantes, incessantes, mouvementées, sur ce qu'on va appeler ça la mimésis ou l'imitation, c'est-à-dire le rapport, on va dire, modèle-image, modèle-portrait, qui est le modèle, qui est le portrait, qu'est-ce que fait l'artiste finalement, c'est l'artiste, il ne fait pas le portrait, l'artiste, celui qui fait le modèle, qui ensuite sera imitable, etc. Toutes ces questions sont toujours là, mais ce qui m'a frappé au passage, c'est cette phrase qui dit que le monde d'aujourd'hui est tellement complexe, il n'est plus possible de le rendre à l'air d'un instrument, le langage. Ah ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Fermons, ne lisons plus. Ne lisons plus Claude Simon, puisque justement, c'est la croyance inverse. Et se rendre passe par ce que nous appelons, ce mot fameux et ancien, c'est-à-dire l'ekphrasis. Et pourquoi j'ai mis péplum encore moins là-dessus ? Parce que les combats, Claude Simon, c'est les troufions. Alors, c'est pas Spartacus, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la tenue, le costume, comme on dit, il y a des films en costume. Costume, c'est le va-nu-pied de la guerre d'Espagne, c'est les bandes moltières, ou tout ça. C'est, bon. Alors, bon, attendez, je vais commencer à m'arrêter. Je voulais quand même aussi faire une citation du deuxième article au sujet de cette ambiance critique qui commence à mesurer. Je ne sais qu'elle voyait bien entendu que c'est pas du tout un jugement, comment dire, mais on va dire un éloignement, un retirement d'un homme du XXe siècle milieu, effectivement, par rapport à ce temps où je suis obligé de dire nous, puisque je suis toujours là. Désolé, mais c'est le donc nous. Qui est complètement autre. Alors, il y a à la fin l'appréciation modérée de cette critique m'a aussi un peu étonné, mais assez sympathique d'ailleurs. Il dit, où est-ce que je dis ? Non, il faut que je vous cite ça parce que ce qui est porté au crédit de Claude Simon, auteur, c'est la perspicacité. Où est-ce que c'est ça? Ah oui, bon, ah voilà une formule. C'est la dernière formule de la phrase. Donne à connaître le travail discursif nécessaire. Oui, non, je lis toute la phrase. L'énoncé simonien attire donc l'attention sur lui-même, ça c'est son côté moderne, vous voyez ce que je fais, et donne à connaître le travail discursif nécessaire à produire une appréhension perspicace des choses. Oui, c'est vrai, ça habille très large, après tout, quel écrivain ne veut pas contribuer à produire une appréhension perspicace des choses, d'accord. Donc, y a là, on sent une espèce de... Attendez, je vais encore ajouter un mot à cause de tout ce qu'a... En retangentant ce qu'a dit Yves Boudier... Oui, au passage, quand même, j'insiste sur ceci, c'est que l'ekphrasis est très souvent, là encore, il faudrait reprendre le passage, félicitations, est très souvent introduit par un opérateur, on va dire syntaxique si vous voulez, mais un opérateur qui est l'opérateur poétique par excellence, c'est-à-dire le comme si. Les choses, hein, d'un côté, le bouillonnement invraisemblable, enfin bouillonnement, et la coupe qu'il s'agit de faire, qui va être que la coupe d'une photographie ou la coupe d'un tableau va opérer, et qui est introduite souvent, comme si il y a le moment ekphrastique est impéré par le comme si. Alors, parce que vous avez parlé de poème, vous avez bien raison. Hein, le caractère poétique de tout cela, par tous les côtés, c'est-à-dire le côté écriture dont on va en reparler un instant, et le côté de l'expérience. Le côté de l'expérience, qu'est-ce que c'est que ça, vivre dans cette, finalement dans le non-sens absolu, etc. Mais là, ce sur quoi j'insiste, c'est cette affaire de d'interposition. Interposition comme. Le mot qui revient souvent, c'est dans les textes sur lui et dans les classes, c'est description ou descriptif. Mais au fond, la grande affaire, c'est pourrait être mise dans cette disposition suivante. Quel est le couple, quel est le terme qui va avec description? Description et quoi? Description ou quoi? Quel est le duel intelligible qui est là? On va dire description ou définition. Alors, pour me faire comprendre, la géométrie ou abstraction, tout ce que l'homme fait est abstraction, artefact, si vous voulez. Abstraction. Bon, ça commence par une abstraction. Alors, qu'est-ce que fait la définition? Comment la géométrie, ça consiste à passer d'une certaine description à une définition. Autrement dit, l'élément géométrique, c'est ce que vous voyez moins ce que vous voyez. Ça qui a commencé par là. On dit le maître va au tableau avec sa craie, trace une ligne, et il dit, voilà, la ligne droite, c'est ce que vous ne voyez pas, mais que vous voyez grâce à ce que vous voyez. C'est-à-dire, la ligne droite n'a pas d'extrémité, elle n'a pas d'épaisseur. Bon, au tableau, la craie, c'est large, et puis, donc je définis, le mouvement de définition. Alors, on pourrait se demander, et qu'est-ce qui se passe dans d'autres? Qu'est-ce qui se passe? La philosophie, si l'on veut, défini, c'est-à-dire le moment où Serlien de l'époque ou de la réduction par rapport à l'empirie, ce sont des moments de définition. Il y a le moment de l'intelligibilité, c'est le moment de la définition. Alors, qu'est-ce que ça serait que l'équivalent dans l'art du roman, l'art d'écrire, description, mais qui n'est pas justement achevable, qui n'est pas possible, c'est ce qu'il appelait le chaos. Et la définition, c'est peut-être l'ekphrasis qui va prendre la définition. Hein. Définition, ce qu'on a sous les yeux de lecteur, c'est le défini, c'est le moment de la définition. Ça serait donc ici l'homologue de ce que j'ai appelé la ligne droite pour le truc, ou le philosophème réduit par un phénoménologue. Phénoménologue. Ici, je crois aussi, je n'ai pas pu le faire, j'avais envie de relire tout ce que Merleau-Ponty a senti avec Claude Simon. Alors, un dernier mot, Yves. Je dis Yves parce qu'il a parlé de ça, mais si on regarde maintenant le texte posthume, Archipel et d'or, on a envie de dire, bah oui, c'est du poème. Hein ? J'avais pris quelques notes là-dessus. Alors, donc, le caractère poétique de l'écrit simonien, quand on regarde, c'est d'abord toute l'œuvre, et puis ce livret posthume, des pages tardives, Archipel et Nord. Je me suis demandé, à la fin de ces notes, que je ne vais pas lire non plus, je me suis demandé, au fond, peut-être on pourrait appeler ça, d'une certaine manière, un prosimètre, parce qu'il y a un mixage, un entrelacement. Peut-être, d'ailleurs, on pourrait aussi se demander si on pourrait employer le terme de surimpression, qui est tellement important, parce que la technique qui vient de la photographie et en même temps de la peinture, mais enfin, technique moderne, pas post-moderne, comme ultra-moderne, c'est-à-dire d'aujourd'hui, mais c'est la technique, la surimpression. Et il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes poètes aujourd'hui qui raffolent la surimpression. La surimpression, c'est pas mal. On met ensemble l'un sur l'autre deux énoncés dans des caractères différents. Ou bien, hein, on met de la grosse typo, puis de la petite typo. La surimpression, c'est une manière de mettre ensemble sans réfléchir à la médiation, c'est-à-dire à la synthèse ou à comment les mettre ensemble. Je mets ensemble deux choses. Ah, c'est une belle surimpression. Surimpression. Et il faut regarder de près la surimpression. Alors, ce que je veux dire, c'est que s'il y a S'il y a le côté descriptif, envoyant vers une prose, même si cette prose est déponctuée et ressemble parfois à une inscription archaïque monumentale, bien que il y a toujours des intervalles de mots chez Claude Simon, hein. Mais il déponctue, c'est aussi très bien à faire, la déponctuation. Il déponctue, mais quand on lit oralement les choses, ça n'offre aucune difficulté. On s'arrête, hop, une ligne, et même c'est moins de difficulté qu'à lire une inscription romaine. Tiens, où est-ce, ah oui, ça s'arrête là. Bon, tout ce côté-là. Et puis il y a le blanc, le décrochage, c'est-à-dire l'alinéa. Il y a tout à coup une liste ou une pile, ça ressemble parfois à une table des matières, une pile de, est-ce que c'est des syntagmes, c'est pas des phrases, c'est une pile de, oui, de manière de syntagme, il faut comme une table des matières qui s'interrompt, donc comme une espèce de disposition de poème relativement moderne à laquelle on est habitué, et puis ça enchaîne, ou ça s'enchaîne, ou ça se juxtapose avec le prosème. Donc, est-ce qu'on peut appeler cette disposition qu'on trouve là quelques façons de prosimètre inventif, surimpressionnant, en tous les cas, mettant ensemble, syncrétiquement au moins, alors on va dire. Moi, je le crois volontiers, donc j'irai dans votre sens. Je m'arrête là.
Merci, Michel Gogui. Merci aussi pour ce parcours, cet aperçu critique de la critique, enfin en tout cas d'une critique contemporaine. Je voudrais maintenant passer la parole à Bernard Pingot pour qu'il nous parle peut-être de son rapport à Claude Simon. Je crois aussi que vous l'avez connu, que vous avez été en relation avec lui, et donc il serait intéressant peut-être d'avoir un aperçu de la façon dont, au début des années 60, voire la fin des années 50, l'œuvre de Claude Simon est ressentie.
Quand on entend bien là, oui. C'est une situation un petit peu difficile d'être le dernier parce que on a soi-même préparé quelques notes et puis finalement on est intéressé par tout ce qui était dit avant et on voudrait répondre à tout. Enfin, c'est un petit peu décousu ce que je vais dire. J'ai un point en commun avec mon ami de Guy, c'est que moi aussi j'ai écrit un article sur la route des fleurs. Je me souvenais que j'avais écrit celui-là dans le Critique. C'était les débuts, c'était pas les débuts de Claude Simon, puisque on sait qu'il a commencé à écrire des avant la guerre, qu'il n'a pas publié ce qu'il a écrit pendant la guerre, c'était Le Tricheur, que Nadeau à l'époque, à l'époque où ça a été repris, curieusement, à rapprocher de l'étranger, s'il y a quelque chose qui, a priori, n'est pas évident, c'est la parenté entre la prose de Simon et la prose de l'étranger. Mais ça prouve donc combien l'art de Simon a évolué, en fait. C'est une des choses qui me frappe le plus, c'est le fait que c'est un écrivain qui a beaucoup bougé pendant ce qu'il faut appeler sa carrière, enfin, qui a donc énormément réfléchi sur son travail et qui a, disons, un peu entre guillemets, qui a progressé, qui a inventé peu à peu cette phrase dont nous parlons aujourd'hui. Alors, moi, j'ai connu Simon tout à fait au début de sa période Minuit. C'était la période où il est apparu dans l'espace littéraire, puisque ses premiers romans n'ont vraiment pas eu grand écho. Il y en a un qui a été repris en 1957, je crois, avant l'arrivée de Lindon, qui a été repris par les éditions de Minuit, je ne sais plus le titre exactement, mais enfin, peu importe. Et puis après, à partir du vent, le vent, tentative de restitution d'un retable baroque, ce qui m'avait beaucoup frappé, moi, à l'époque. À partir de là, nous avons le Claude Simon tel qu'il va, tout en évoluant beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Il était très lié avec... très lié, enfin bon, Il était allié avec Robbe-Grillet, je crois, quand même. Enfin, en tout cas, il l'a beaucoup connu, puisqu'il venait, aux éditions de Minuit, que Robbe-Grillet était un petit peu le majordome des éditions de Minuit, si j'ose dire. Et bon, ce petit groupe-là, le nouveau roman, le noyau, c'était Robbe-Grillet plus Simon. Il y a eu Butor, mais Butor a déserté, si j'ose dire aussi, là, assez vite. Il a déserté le roman, il a déserté l'éditeur. Donc, il a été un peu jeté dans les ténèbres extérieures par l'école, si tant est que ce fut une école. Et bon, Pinget était quelqu'un de très solitaire, qui n'a pas fait de théorie, enfin très peu. C'était un ami. Il y a eu Claude Ollier, qui avait un rôle aussi beaucoup à l'époque. Pour l'œuvre, je dois dire, n'a pas donné tellement de fruits. Enfin bon, je ne vais pas dire du mal de qui que ce soit, mais aujourd'hui, on ne parle plus guère de Claude Ollier, ça c'est sûr. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore, on a rajouté Beckett, Duras pour faire, bon, Robbe-Grillet a très bien manœuvré et très bien raconté comment il a manœuvré dans de nombreuses reprises, notamment dans les textes qui ont été réunis aux éditions du c'est au Seuil, oui. Qui sont toutes ces interventions à la radio, ces articles, tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un livre très intéressant parce qu'on voit tous les dessous de Robbe-Grillet apparaître là. Bon, Robbe-Grillet a fabriqué, avec l'aide de l'époque, du critique littéraire de l'époque, Pierre-Henri Simon, avec l'aide d'Émile Henriot, qui faisait l'article hebdomadaire du Monde et qui ne comprenait rien à ce que voulait faire Robbe-Grillet, qui en disait même beaucoup de mal. Donc il a utilisé, comme on fait au jujitsu, la farce de l'adversaire pour faire apparaître l'école ou la pseudo-école du nouveau roman. C'était une opération publicitaire tout à fait remarquable, que malheureusement personne aujourd'hui ne semble. Il n'y a plus d'école. Bon, alors, mais j'avais remarqué qu'à l'époque, on ne va pas non pas parler de la formation des écoles parce qu'on part je ne sais pas où. Donc voilà, moi j'ai été mêlé assez directement parce que j'ai beaucoup apprécié les premiers Robbe-Grillet. J'ai rien compris du tout la première fois que j'ai lu un livre de Robbe-Grillet. Et puis petit à petit, ça s'est éclairé et je suis devenu même un ami de Robbe-Grillet. J'ai même pendant une certaine période joué un peu le rôle de perroquet du nouveau roman. Enfin, j'ai écrit des articles tout le temps sur le nouveau roman. Puis après, bon, je suis pas ici pour raconter ma vie, mais j'ai perdu de vue. Je me suis brouillé avec Robbe-Grillet. Et puis j'ai eu des problèmes avec Claude Simon, dont je pourrais parler ensuite. Voilà. Bon, à cette époque-là, c'était le premier Claude Simon, du vent, de l'herbe, ses premiers livres chez Minuit. Alors on a même imaginé, Robbe-Grillet en parle, mais je crois que Simon en parle aussi quelquefois. C'est un projet que j'avais suggéré à Jérôme Lindon, qu'on essaye de définir les points communs de ces écrivains en faisant un dictionnaire des mots de la critique et en voyant si on avait tous les gens présents, il y en avait encore d'autres, enfin bon, si on avait des points communs et qu'on pouvait dire par exemple l'article personnage, on pouvait faire un article personnage collectif. Ouais. Je ne sais plus si c'est personnage ou objet qu'on a choisi. Je crois que c'est personnage. Alors, après cette réunion, on est allé chacun de son côté faire l'article personnage. Moi, j'en ai fait un. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit très grave, mais enfin, je l'ai perdu. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis, quand on s'est réunis et qu'on a commencé à lire des articles personnages, ça n'avait absolument aucun rapport entre il était absolument évident qu'on ne pouvait pas faire un texte commun avec tout ça. Et finalement, le dictionnaire s'est évanoui. Et je crois que c'est Barthes qui l'a tué. Barthes allait aux réunions et il a subtilement exposé que bon, c'était pas bon. Enfin, bon c'est, voilà, c'est. Rob Grier raconte ça et d'ailleurs, il me semble que Simon, il fait allusion, donc il devait y être. Il n'emploie pas le mot dictionnaire. Bon. Peu importe, laissons ça de côté. Alors moi, ce qui me... Pour revenir au sujet un peu d'aujourd'hui et rapidement, il y a une chose qui m'a frappé en préparant ce... Moi aussi, j'ai mes petits papiers comme ça dans lesquels je me perds. C'est ça qui est bien dans ce genre de choses. Voilà, ça. Les épigraphes des romans de Claude Simon, quelques-unes en tout cas, c'est juste c'est parce que là vous faites bien l'épigraphe, tu sais pas. Bon. Elles sont très significatives et très bien choisies, je trouve. Alors je voudrais en citer deux ou trois pour me lancer. Le vent, celle-là est particulièrement intéressante. C'est les deux dangers qui menacent le monde. L'ordre et le désordre, signé Paul Valéry. Premier point. L'herbe, personne ne fait l'histoire, on ne la voit pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser. Boris Pasternak, c'est à mon avis très, très significatif aussi. Et puis, histoire, il y a un petit texte de Rilke, je ne sais pas d'où ça sort. Qui est ainsi rédigé, cela nous submerge, nous l'organisons. Cela tombe en morceaux, nous l'organisons de nouveau. Et tombons nous-mêmes en morceaux. Voilà, j'ai écrit ça tout petit, j'arrive pas bien. Et tombons nous-mêmes en morceaux. René Maria Rilke. Alors, ce sont des textes un peu communs entre... Moi, il me semble que ça correspond à certains, même à beaucoup d'égards à ce qu'a dit mon éminent voisin, et aussi ce qui a été dit par M. Rodieu. Je crois que le plus intéressant, mon point de vue, ça serait plutôt de prendre l'œuvre et le style et l'écriture de Claude Simon par le biais de cette phrase de Valéry, l'ordre et le désordre. Je crois que, moi, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé dès le début d'ailleurs, c'est la tentative moderne, parce qu'il y a d'autres romanciers qui, par des voies différentes, allaient quand même dans la même direction, la tentative de, en quelque sorte, de détruire le roman dans une forme qui reste, ou détruire la forme, bon, peu importe, ça joue dans les deux sens. Je citerai là, pour me faire comprendre mieux, un autre article sur la route des Flandres qui a été écrit, lui, par Dominique Rabaté, que je pense un certain nombre de gens doivent connaître ici, et que Dominique disait que Claude Simon veut déjouer la clôture interne de la forme, préservée à l'intérieur d'une forme, qu'il faut donc inventer une mise comme mise ensemble qui fournit. Non, attendez, je vais reprendre une autre phrase parce que je ne me relis plus. Oui, l'idée de qui m'apparaît excellente de cet article, c'était que l'objectif de Claude Simon était de détruire la forme, au sens classique du terme du roman, de le détruire par la diversification, par les répétitions, par les paragraphes qui commencent par qui sont la suite d'une phrase et qui commencent par des guillemets, etc. Enfin, tous les procédés dont on a fait allusion, dont a parlé hier Dominique Viard et qu'on a abordé aujourd'hui. Il s'agit de détruire ça, mais ça ne peut se faire qu'étant donné la clôture du texte, ça ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un texte clos. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction interne qui est en quelque sorte le moteur du roman. Parce que, je me rapproche là de thèses que je défends personnellement, je crois beaucoup à l'idée de la clôture du texte, et qu'un texte, ce soit d'abord et avant tout, quelque chose de clos et de total, d'inchangeable. Bon. Et on pourrait penser que l'objectif du Joutillon, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire de détruire cette totalité. Dans le même article, Rabaté parle de totalisation plutôt que totalité. Détruire cette organisation interne classique, mais on ne peut le faire que sous la forme d'un livre. Enfin, sous la forme d'un texte, sous la forme d'un tour, on peut employer toutes les expressions que vous voudrez. Il y a donc un moment de l'achèvement. Et ça, la tentation de l'inachèvement va dans le même sens, qui est propre à la littérature moderne. On peut imaginer un roman idéal de Claude Simon, on commencerait par des guillemets, on serait déjà à l'intérieur d'une phrase, et il n'y aurait pas de fin. Le mot fin est un. Même si on l'écrit à la fin du livre, tout livre, par définition, ne peut être lu que s'il est fini. Bon. Il y a une finitude externe, qui est la finitude tout simplement du fait qu'il y a tant de mots et tant de pages, et puis il y a une sorte de finitude interne qui est presque pressant l'écrivain, moi j'appelle l'ensemble, enfin bon, on peut trouver d'autres définitions, mais l'écrivain dans son travail est guidé par pour moi c'est comme ça que ça se passe, le sentiment d'un ensemble futur qui sera le texte définitif. Mais cet ensemble est déjà, lorsque j'écris, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais peu importe, longtemps je me suis couché de bonne heure, il y a déjà l'ensemble de la totalité de la recherche qui se profile. Bon. Et tout ça ne peut exister que sous une forme. Sous une forme, et non pas sous une informalité. Alors, le conflit de l'ordre et de le désordre me paraît être ce conflit-là qui est au cœur de l'œuvre de Claude Simon, à la manière de Claude Simon, parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont sens ce conflit. Je pense particulièrement à un écrivain qui m'intéressait toujours beaucoup, et je me suis beaucoup occupé, qui était Louis-René des Forêts. Il y avait exactement ça dans le roman mythique Rêver des Forêts, qui a finalement publié, contraint et forcé par lui-même et aussi par les éditeurs, un livre qui s'appelle Ostinato, et qui n'était pas fini, et dont il cherchait lui-même comment ça pourrait faire un ensemble. Il a soigneusement présenter cette série de fragments qu'il écrivait, il n'y avait aucune raison de s'arrêter. Il les a présentés avec une toute petite préface, enfin, en disant que c'est une sorte de présentation provisoire de quelque chose qui, par définition, ne peut pas faire un ensemble. Mais il lui donnait quand même la forme d'un livre. C'est le même genre de mécanisme. Alors pour moi, c'est pour moi lecteur, hein, parce que et critique un peu, mais je ne prétends pas. On peut lire très différemment. Pour moi, le roman simonien est tout à fait caractéristique de cette. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, quand même éviter la tentation de l'ordre, forcément. À un moment ou à un autre, il met un point. Il découpe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait notre ami présentateur, que c'est pas l'art de la phrase. Moi, ce qui me frappe chez Chaussure, c'est l'art du fragment. C'est ces petites totalités, détotalisées en même temps, qui sont juxtaposées, très soigneusement composées par Claude Simon, qui fabriquait son puzzle très minutieusement, mais qui peuvent avoir 10 lignes, 15 lignes, 2 lignes, ou alors, je pense par exemple dans le tramway, qui est le dernier roman officiellement, en principe, qu'il est écrit, il y a une très longue, je cherchais l'autre jour, la plus longue phrase du tramway. Il y en a plusieurs, mais il y a un vers la fin, une partie de tennis, hein, où il est question d'un ami enfant qui est mort à la guerre, sur la route des Flandres. Il y a la partie de tennis, il y a la construction de tennis, il y a toute une série de choses qui sont juxtaposées, avec des points à l'intérieur par moment. Mais ces points, on essaie de pas les voir. Enfin, ça forme un bloc de trois pages où tout passe, hein, ce qui est tout à fait typique. Alors pourquoi ça s'arrête? Je posais la question, je me pose en effet la question. Ça s'arrête parce qu'il faut bien que ça s'arrête. Pourquoi au bout de pourquoi ne continue pas au bout de ces pages où il accroche, je crois qu'il utilise même cette métaphore dans une interview, les anneaux du manège, vous savez, le manège tourne et on doit attraper un anneau au passage, on l'attrape ou on l'attrape pas, puis ça continue, on l'attrape, et voilà. Ça pourrait continuer, effectivement, indéfiniment, c'est quoi? Ces fragments, ces blocs d'écriture qui sont faits avec des relatives successives qui nous embarquent dans des directions différentes et qui se rattrapent. Enfin, puis à un moment, on arrête, on respire et on passe au suivant. Bon. Alors, il y a tout à l'heure, Michel, tu parlais du com, qui est en effet. Un tic, mais je ne prends pas tic au sens péjoratif. Je crois que tous les écrivains ont leur tic. C'est indispensable de s'appuyer sur ces matériaux-là. Alors, le tic de Claude Simon, tu as dit, c'est intéressant parce que tu as dit le comme si. Or, ce sont deux choses complètement différentes. Je n'ai pas la solution, mais c'est un problème que je me suis posé en réfléchissant à cette réunion. Le comme si est plus fréquent que le comme, et moi ça m'intéresse parce que j'envoie naturellement le comme si bon, dans un récit. Le comme si, ça amène le conditionnel. Donc ce qui est comme si est moins ressemblant que ce qui est comme. Il y a une espèce de façon d'ajouter au désordre. Et en même temps, c'est une interprétation quand même, comme si, et ceci. Donc, ça relève plutôt de l'ordre. C'est, voilà, une espèce de machin qui est chevillé entre les deux, et qui est très pratique, justement, à cause de ça. Et puis, je pense que ça a été étudié beaucoup aussi, le participe présent. Bon, c'est une tarte à la crème, si j'ose dire, des romans de Claude Simon. Qu'est-ce que ça signifie? Et alors, j'ai trouvé dans une interview, je vais peut-être terminer là-dessus, dans une interview de Claude Simon, voilà. Non, attendez, c'est pas ce papier là encore. Ah, voilà. Le participe, voilà. L'intervieweuse, c'était Madame Madeleine Chapsal dans la Gazette littéraire, je crois que c'est tout. Qui lui demande pourquoi il n'emploie pas. Il dit, ma principale différence avec Robrier, c'est que Robrier écrit au présent de l'indicatif. Et puis, le roman traditionnel, il s'écrivait au passé simple. Bon. Alors, elle l'interroge là-dessus, et la différence entre le passé simple et le participe présent, voilà comment il répond. Le participe présent, le passé simple du récit, le passé simple, c'est ce que, je ne sais pas si vous connaissez l'article, le fameux article de Benveniste sur les temps du récit, c'est le temps typique du récit pour Benveniste. Et justement, c'est parce que c'est le temps typique du récit que lui ne veut pas l'employer, puisqu'il va subvertir le récit simonien. Alors, le passé simple, dit Claude Simon, indique un événement qui est fixé et qui est arrivé réellement. Voilà. C'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné fixe. Voilà. Alors, vous allez voir là, je trouve un peu bizarre cette définition. Le participe présent n'affirme rien qu'une vision, une image, et non pas quelque chose qui s'est passé un certain jour dans une prétendue réalité, mais qui se passe très précisément au moment où j'écris. Le participe présent est donc un facteur de désordre, en ce sens. Il contribue au fait que ce qui est écrit dans le roman, ce n'est pas des événements réels ou arrivés, c'est toute une série de sensations, de mémoires, de choses qui reviennent et qui s'ajoutent. Vous avez une phrase de Tolstoï aussi que citait beaucoup Claude Simon, qui a été relevée souvent, c'est que Tolstoï imaginait un homme en bonne santé qui se remémore un nombre incalculable de choses à la fois. Alors ça, c'était évidemment une... Alors, le participe présent pour Simon, me semble-t-il, c'est ça, ça va dans ce sens. Mais moi, en le lisant, c'est une sensation personnelle, j'ai plutôt le sentiment que le présent fixe, que le présent serait de l'ordre. Et que tous ces présents successifs qu'on retrouve dans certaines longues phrases de Claude Simon, dans ces blocs dont je parlais, tous ces présents successifs, c'est en même temps un effort pour fixer tout ça et que ça s'insère dans une forme achevée. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ma lecture du participe présent est la même, mais en tout cas, on retrouve dans cette présence, cet usage du participe présent, à mon avis, à la fois l'ordre et le désordre qui sont en permanence en lutte intérieure chez Simon. Voilà.
Merci Bernard Pingot d'avoir bien voulu finalement proposer une approche assez précise, hein, à partir d'exemples détaillés de l'écriture de Claude Simon et de ce qu'elle permettait de livrer. Vous avez montré en quoi elle permettait de livrer une saisie de la complexité du réel, notamment en tant qu'il s'agit de cette saisie par la conscience du réel et non pas, comme vous le disiez, par le passé simple qui met les choses à plat et les situe de loin. Alors vous posiez la question, pourquoi faut-il que ça s'arrête. Je perçois des regards qui me disent que la session suivante doit démarrer très bientôt. Donc je vous remercie tous les trois pour ces...
Sauf si l'heure nous tient une ou deux remarques sur ce qu'a dit Bernard. La séance est interrompue.
Alors je regarde du... Est-ce qu'on a le temps ?
On a peut-être deux minutes et puis ensuite on passera la parole au public si le public a des questions à poser à l'un des intervenants.
Non, s'il n'y a que deux minutes, non. Non, parce que je voulais enchaîner sur ce qu'il a dit. Alors, je n'en ferai qu'une de ces remarques. Non, deux. Restitution d'un rétal baroque, heureusement qu'il l'a dit, parce que c'est ça l'ekphrasis. C'est magnifique de dire. Restitution, c'est les choses que rendre, finalement, que reproduire, avec, alors qu'ils traînaient tous la suspicion, production, reproduction. Il y a une naïveté chez Claude Simon, une naïveté théorique ou pré-théorique, c'est-à-dire, comme dire. La production, c'est bien, la reproduction, c'est pas bien, alors ça, l'expression, etc. Donc, mais quand on dit restitution, on est déjà, au fond, dans le rendre, restitution d'un retable baroque, c'est-à-dire d'une œuvre. Autrement dit, pour faire ce qu'il fait, il passe, il interpose ce que j'ai appelé l'ekphrasis, mais c'est ça, magnifique. D'autre part, et pour répondre à Bernard, le comme, c'est la grande affaire. Alors, comme si, comme ça, je fais simplement ceci sur Marc. Il faut ne pas oublier qu'il y a deux usages en français, puisqu'il n'y a qu'un seul comme. Il y a aussitôt la bifurcation als-vie, c'est-à-dire le comme en tant que, la guerre comme la guerre, le truc, en tant que le fameux als des Allemands, c'est le quatenus des Latins, en tant que la chose, en tant que là, c'est le grand mot, c'est le philosophème par excellence, la lunette en tant que lunette, etc. Bon. Et puis il y a le comme qui est le dispositif vie en allemand, la comparaison, le like, les Anglais aussi entre as et like, c'est la différence. Alors ça c'est très important. Comment arriver à faire jouer les deux comme en même temps dans cette bifurcation du en tant que vie. Et puis le comme si qui va avec, comme si, comme ça. Je me permets de te rappeler que mon dernier livre de poèmes s'appelle Comme si, comme ça. Ah. Le comme si, non, le comme si c'est le als ob, c'est comme si, c'était, comme si c'était comme ça. C'est la suspension de la croyance, comme si. C'est-à-dire, comme si c'était comme ça. Parce que Hegel, il se promène dans les Alpes et on lui dit alors Hegel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit « Es ist so ». C'est ainsi, donc il n'y a rien à dire. Mais le poète, non, « Es ist so », bien entendu, « Es ist so ». Mais comment est-ce? Et toute l'affaire de d'ailleurs, finalement, on pourrait prendre Beckett pour certains titres de Claude Simon. Comment c'est? Comment ça a été? Comment c'est? Ce fut comme ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, bon, je n'insiste pas là-dessus, mais tu comprends, à mon avis, c'est bon, je vais te dire que les deux comme et le comme si, ça doit être pris ensemble dans le dispositif de la pensée. La suspension, alors Coleridge dit la suspension volontaire de la disbelief, mais l'affaire moderne, c'est willing suspension of belief, la suspension volontaire de la croyance, pour entrer dans le « c'est comme ça », etc. Bon, j'arrête. Mais c'était intéressant d'accrocher ces trucs-là.
Ben oui, d'autant que j'avais plein de questions à vous poser sur la métaphore, mais peut-être pour une autre table ronde. Donc je vous remercie tous les trois pour ce bel échange. Ah non, n'applaudissez pas. Peut-être certains dans la salle ont des questions à poser ou des réactions aussi à ce qui s'est dit.
Oui, merci beaucoup. Juste une suggestion, j'ai assisté hier aux échanges autour de l'histoire, Claude Simon et l'histoire. J'ai été beaucoup frappé par le fait que les participants n'ont pas évoqué de façon précise le fait que finalement tout cela n'a aucun sens, que l'histoire n'a aucun sens, si ce n'est peut-être que l'herbe doit pousser et que les enfants meurent. C'est une formule de Hugo qui est reprise par Proust puis par Claude Simon lui-même. Et j'avais envie de demander aujourd'hui aux personnes aujourd'hui qui sont là pour nous parler de son œuvre et le sens de la phrase. La phrase a-t-elle un sens? Alors peut-être que c'est le sens au sens, je ne sais pas, de l'étoffe, de la rivière qui coule, mais la question que je me pose, c'est que finalement, puisque l'histoire n'a aucun sens, est-ce que le sens, il ne peut pas se construire malgré tout un peu dans la phrase et par la phrase ou par une forme qui nous accompagne? Merci.
Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre
tout rapidement? Mais ça, il faudrait reprendre la séance. Mais là, d'abord, j'ai commencé par faire allusion à la page de Claude Simon qui dit « Bruit et fureur, tout ça n'a aucun sens », c'est sa conviction fondamentale, c'est évident. Mais si on reparle de ça, il faut commencer calmement par la différence entre la signification linguistique et le sens, qui n'est pas la même chose. Par exemple, nous sommes tous d'accord, nous nous accorderions assez volontiers sur une expression dans le sens de la musique, écouter de la musique, avec des commentaires, des paraphrases, des accompagnements. La musique, ça accompagne. Oui, ça accompagne la vie, ou la vie accompagne la musique. Alors, mais ça n'a pas de signification linguistique. Par exemple. Néanmoins, on est dans le sens. Alors, si je réponds simplement ça pour vous dire quelque chose. Différence entre la signification linguistique, celle de signe saussurien, si vous voulez, le truc à trois trucs, et le sens. La vie n'a aucun sens, mais elle a, on pourrait dire à certains moments, de la signification par les textes, ou autrement. Alors, il y a le roman. Et puis, bon, alors qu'est-ce que c'est que le meaning of meaning, le sens pour la philosophie? Bon, vous voyez, on a du boulot, mais enfin, je vous entends.
Juste peut-être un élément aussi pour compléter ce que disait Michel de Guy. Il faisait référence à la citation du discours de Stockholm, « Le monde ne signifie rien sauf qu'il est ». Hein, ce passage de pris chez Shakespeare, Barthes et aussi Faulkner. Et Rob Grillet aussi, d'accord. Et je crois que la syntaxe, précisément, elle reproduit ce rapport à l'absence de signification pour rendre justice à une formule qui a été employée hier lors de la table ronde consacrée à l'histoire, à moins que ce soit une autre. Il y a eu cette formule de tabula rasa qui a été employée, cette idée de faire table rase des constructions, des valeurs héritées du passé. Et il me semble que par cette espèce de démantèlement de la phrase, finalement, la phrase elle-même, pour répondre à la question que vous posez, mime cette espèce de mise à plat des choses et de déconstruction de toutes les formes de valeurs qu'on avait pu avoir. Donc s'il y a un sens, ça n'est jamais que très modestement celui-là.
Une autre question peut-être?
Bien, écoutez, je vous remercie. tous, les trois intervenants, et vous-même de votre écoute.
Nous allons donc maintenant laisser la parole à Pierre Skunches, qui est professeur à l'Université de Gand, et à ses invités. Je vais donc lui laisser présenter ses invités. Karine Holter, Luc Lang et Jean-Yves Lorichesse. Merci.